Le principal mystère des statues géantes, ce n'est pas l'île de Pâques, c'est comment des gens arrivent à monter à leur sommet en utilisant des parties aléatoires de leur corps agrandi comme prise d'escalade. Il y a dans cette transmutation de l'humain en rocher quelque chose de fascinant, comme si le singe en nous, qui s'était une première fois déplié dans les branches des arbres, se trouvait tout au bout du processus d'hominisation, confronté à lui-même en tant qu'arbre, et se trouvait bizarrement contraint, comme dans le mythe contemporain de l'Anthropocène, de s'escalader lui-même. La grosse statue de la République sur la place parisienne du même nom, n'est jamais autant allégorique que les jours où des manifestants l'escaladent, jamais autant républicaine que quand la foule aléatoire se désigne un représentant qui viendra siéger sur sa tête ou haranguer la foule depuis sa main tribunicienne. Parfois, c'est encore arrivé récemment, celui-ci tombe et meurt, victime sacrificielle du suffrage universel envisagé comme une pyramide de Ponzi. Les mains de tous ces singes sont trop nombreuses pour tenir tout ensemble le rameau d'olivier, mais sans cette abondance, ce delta digital infini, personne n'aurait pourtant réussi à l'atteindre. Pour avoir colossalement échoué à monter en Russie dans la main d'un gigantesque Lénine dont je n'ai jamais pu, malgré l'aide d'un compatriote royaliste qui rêvait de nouer à son cou son écharpe Burberry, dépasser les chaussures, je sais ce que la statue géante a, paradoxalement, de profondément démocratique et avant tout comme système de représentation. L'idée est difficile à exprimer et quantité de statues de despotes à travers le monde démentent massivement cette opinion. En même temps, la statue de la liberté et les quatre présidents démocratiquement élus du Mont Rushmore demeurent les archétypes indépassables du genre, et l'Inde vient d'inaugurer, même si le geste n'est pas sans ambiguïté nationaliste, la plus grande statue du monde, une effigie géante de Vallabhai Patel, l'un des pères fondateurs de l'Inde moderne et démocratique. De même, je ne sais pas quoi penser de la statue de Danton à Odéon, qui occupe exactement la position de la chambre du tribun, comme s'il l'avait directement rêvé, mais il ne s'agit pas d'une statue géante, quoique Danton ait l'air dangereusement dilaté. De la même manière, les ouvriers qu'on a représentés dans le décor en bronze du pont Bir Hakeim, en train de marteler d'authentiques rivets sont à peine agrandis, mais ils semblent pourtant bien exprimer à leur manière le paradoxe de la statue géante, le paradoxe de cette humanité qui, incapable d'accéder au stade de la conscience planétaire, se serait mise à tricher avec les proportions et à réfuter soudain tous les progrès de la perspective pour se représenter comme sur les enluminures médiévales, aussi grandes que ces villes, alors que la représentation la plus précise que nous arrivons déjà à donner de nous-mêmes, sans recourir à la tricherie de l'allégorie, consiste à remplacer ce bronze par un mince mais irréversible nuage planétaire de carbone, l'humanité confrontée à son rêve de pierre ou qui frapperait elle-même les rivets de son cercueil. Comme le montrait le film La planète des singes, l'espèce qui accède à ce stade néo-naïf ou post-moderne de la représentation d'elle-même finit en général très mal. La statue de la liberté sera peut-être tout ce qui restera de nous après notre disparition, et les paléontologues du futur, surpris par notre taille, nous rangeront sans doute parmi les plus stupides races de dinosaures. J'aime beaucoup les tulipes de Kunz, mais si je prolonge la main qui les tient pour reconstituer le corps entier, j'arrive très vite à la conclusion que la tête énorme est sous la verrière du Grand Palais et qu'elle va très vite manquer d'oxygène. J'ai enfin pénétré cet été dans une statue géante, et c'est à peu près ce que j'y ai vécu. La statue de la Vierge du Puy-en-Velay, malgré la pieuse invasion d'un impressionnant quart de tourisme polonais, débouche sur une expérience religieuse atrocement ratée. On monte par un escalier en spirale dans la robe de la statue qui tient seule par un étonnant génie constructif au pli de celle-ci. On arrive ainsi jusqu'à la tête de la Vierge, au milieu des rayons dorés de sa couronne, prêt à contempler le plus joli des panoramas sur la chrétienté environnante, mais on bute alors sur un dôme de plexiglas suffocant et l'expérience attendue de la grâce se heurte soudain sous le soleil de midi à la plus réaliste des allégories de la crise climatique.